Bienvenue au Centre Pompidou pour la suite de cette journée finlandaise. Après la littérature contemporaine, nous passons maintenant à la musique, et plus précisément au tango. Et nous avons le regret de confirmer que pour des raisons de contraintes techniques liées à la sécurité, nous n'avons pas pu proposer aux personnes qui le souhaiteraient de danser elles-mêmes sur les airs de tango qui seront joués ce soir. Néanmoins, vous pourrez assister à une démonstration de tango par un couple de danseurs et avec l'orchestre de Marcus Allan. Et la bonne surprise, en revanche, de ce soir, c'est Marcus Allan lui-même qui sera là et qui donc chantera avec les musiciens de son orchestre. Avant de laisser la parole à Didier Francfort, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nancy 2, qui animera cette soirée, je souhaitais permettre également à Mme Iris Jevan, commissaire générale de saison finlandaise en France, 100% Finlande, dans laquelle s'inscrit cette soirée, le soin de vous dire également quelques mots. Merci.
Merci Thierry. Mesdames, Messieurs, chers amis, hyvät ystävät, en finnois. De ma part, j'aimerais vous souhaiter tous vraiment les plus cordialement bienvenus à cet après-midi, à cette soirée remplie de tango finlandais. Comme vous le savez certainement déjà, Helsinki était la deuxième capitale en Europe à accepter, à accueillir le tango argentin, qui évidemment qui a été transformé en une variation tout à fait originelle, tout à fait surprenante. Je suis vraiment très très heureuse que nous ayons cette possibilité de vous présenter ce phénomène sous vraiment plusieurs aspects. D'abord, on aura un débat des connaisseurs en la matière, français et finlandaise. Et puis, après, on aura l'occasion de visionner un film qui se dédie à des pistes de danse en Finlande, Tanssilava. Après, nous aurons une démonstration, justement, qu'on vient de signaler, Monsieur Grenier, comment on danse cet tango, comment on le joue. Et je vous inviterai tous vraiment très cordialement à danser le tango demain à partir de 2h30 sur la péniche Nix Nox devant la Bibliothèque nationale. Une danse, mettre tout ceci en pratique, accompagné de l'orchestre de Marcus Allan, Vantaa Pops. Il y aura aussi des professeurs français, finlandais qui donneront vraiment un cours, une initiation à cette danse emblématique. Je voudrais remercier de tout cœur la Bibliothèque d'information de Pompidou de nous accueillir, de nous avoir réservé vraiment cet accueil tout à fait inoubliable autour d'abord de la littérature des bibliothèques finlandaises et puis maintenant autour de ce tango, ce phénomène qui nous tient vraiment au cœur en Finlande. Mille merci Thierry et à toute ton équipe. Je vous souhaite à tous vraiment une excellente soirée avec ce phénomène suomalainen tango. Et je vous assure que cette soirée sera certainement remplie de plusieurs surprises. Hyvää iltaa, bonne soirée.
Merci. Merci beaucoup. Alors, je suis professeur d'histoire contemporaine à Nancy et j'ai le plaisir de présenter, d'être modérateur dans cette soirée sur le tango finlandais. Alors, d'abord, j'accueille les deux autres participants, Madame Marit Niiniluoto, qui est écrivain, qui a écrit des livres magnifiques. J'ai vu les illustrations, je n'ai pas compris le texte, mais des livres vraiment très intéressants sur les musiques populaires, sur tout ce phénomène qui est très important en Finlande et qui fait de la Finlande un pays, pour moi, historien extraordinaire, un seul chiffre. Dans les années 1920, ce pays de 3 millions d'habitants, 4 millions au grand maximum, vend en un an 1 million de disques. Donc c'est dire hein, l'importance de ce phénomène des musiques et des musiques populaires dont vous êtes la meilleure spécialiste et en plus une spécialiste qui parle français. Donc c'est quelque chose de magnifique de pouvoir vous accueillir ici. Et puis, vous nous avez dit, madame, qu'on a des spécialistes. Moi, je ne suis pas spécialiste, je suis amateur. On a une spécialiste, je suis un amateur français. Et puis, on a aussi, pour contrebalancer, pour contredire, un spécialiste argentin, un musicologue argentin, Esteban Bourg, qui est ici, qui a écrit des choses sur la musique argentine et qui a eu la gentillesse de se prêter à ce jeu de la confrontation d'un tango finlandais et d'un tango argentin. Donc moi, je suis un petit peu ici dans une position de modérateur-arbitre entre le tango finlandais et le tango argentin, neutre, hein, modérateur neutre, dans ce débat qui peut se mener. Vous avez bien dit que le phénomène a eu en Finlande, et je crois que vous ne me contredirez pas, quelque chose de très original, mais c'est aussi un phénomène européen. Et la Finlande, Helsinki, grand port, ne pouvait pas être en retard sur les autres capitales pour ces phénomènes de transfert culturel. Alors, pour ouvrir le débat, permettez-moi de donner quelques exemples de ces transferts. Alors, voilà un tango très célèbre, la Comparsita. Ça, vous connaissez, mais vous ne connaissez peut-être pas. Autre exemple hein, qui montre que ça circule en Europe et que la Finlande est bien un pays européen, un tango tchèque. Qui devient ceci. Autre exemple, un tango italien. Suona, suona mia chitarra. Qui devient ceci. Yksin varjossa nyt laulan. Un tango allemand. Enfin, dernier exemple de deux adaptations d'un tango allemand, avec quelque chose qui finit de façon très étonnante. C'est le ciel bleu, c'est bien ça. Deuxième adaptation dans les années 50 avec les Harmony Sisters. Suite à Esteban, qu'est-ce que ça fait un Argentin de dire que le tango est un phénomène européen qui circule en Europe, qui est adapté si magnifiquement par un pays aussi loin de l'Argentine? Et puis tout à l'heure, dans le film qu'on va tous voir, on va même entendre qu'en Argentine, on n'a fait que copier les Finlandais et que le vrai tango est né en Finlande et a été adapté en Argentine. Alors, est-ce que ça te dérange comme Argentin, comme musicologue?
Ah, ça ne me dérange pas du tout, ça donne juste envie de demander le retrait de l'ambassadeur et puis de créer une belle crise internationale autour de cette question tout à fait essentielle pour l'identité nationale argentine. Enfin non, quand Didier tout à l'heure disait qu'il proposait une sorte de confrontation, bien sûr ce n'est absolument pas le cas. Si je ne croyais pas à la légitimité à l'intérieur du tango finlandais, j'aurais refusé. Cela dit, quand il m'a invité à parler ici, je me suis tout de suite mis dans la situation qu'aurait dit un vrai musicologue nationaliste argentin face à une affirmation que l'on voit dans le film dite par personne d'autre que Haki Kaurismäki, donc le grand cinéaste. Ce n'est pas n'importe qui dit cette idée comme quoi le tango serait né en Finlande. Donc ce nationaliste imaginaire, j'espère qu'il est imaginaire, peut-être qu'il n'est pas si imaginaire que ça, en tout cas c'est pas moi, il aurait dit bien sûr quelle bêtise, quelle idée saugrenue, quelle atteinte à l'identité nationale, quelle menace pour nos traditions, etc., etc. Ça a l'air absurde, c'est absurde. Et en même temps, il ne faut pas oublier que pendant assez longtemps, en Argentine, ce genre de manière de concevoir le rapport au tango n'était, je ne dis pas qu'elle était partout, mais elle était quand même courante. Alors, il y a deux modalités à ça, si vous voulez. Il y a une modalité qui consiste à dire c'est inacceptable, le tango n'a jamais été qu'argentin. Et l'autre, qui est supposément plus ouverte, disons, qui consiste à dire l'Argentine a eu cette chose géniale de donner le tango au monde pour que chacun en fasse ce qu'il veut. Cette position-là, elle ne me satisfait pas non plus, même si je dois dire, bon, au cas où il faudrait vraiment entrer dans le débat des origines historiques, face aux affirmations que ça vient de Finlande, je dis sur la base de quel document, j'en connais pas beaucoup, mais enfin, c'est une chose qui, a priori, devrait pouvoir être l'objet d'une discussion. Bref, ce qui m'intéresse, c'est pas exactement ça. Je pense que la vraie question n'est pas tellement quelles sont les origines, mais quels sont les parcours, quelles ont été les trajectoires du tango, qu'est-ce que ça a permis de faire. Alors, ça a permis de prendre du plaisir. Ça a permis de danser, ça a permis de chanter, mais d'une certaine manière, ça a permis aussi de rêver à des identités collectives. C'est ça qui est le plus étonnant dans les histoires croisées, les histoires parallèles du tango en Argentine et en Finlande, par exemple, ou en Europe. C'est qu'on dirait que chaque fois, autour de cette musique, enfin souvent, il y a eu cette envie de projeter des rêves de communauté, quelque part. Il y a un historien qui a inventé, pour parler de la nation, de la nation comme concept, l'idée des communautés imaginées. Et moi, ça me plaît bien, cette formule. D'une certaine manière, je pense que le tango a permis, en Argentine, en Finlande et ailleurs, de rêver de communautés. Alors, c'est pas que tous ces rêves sont sympathiques, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a eu des idées de race, des idées de nation au sens le plus dur, nationaliste du terme, des idées même de race au sens carrément raciste du terme, on en parlera peut-être. Mais il y a eu aussi, et j'aimerais dire surtout, des rêves d'errance. Il y a un chercheur, Ramon Pelinski, qui a proposé le terme de tango nomade pour parler de ce phénomène du tango européen. J'aime bien cette idée du tango nomade, à ceci près que je pense que ça s'applique aussi au tango argentin, quelque part, dans la mesure où le tango en Argentine, bon, je l'ai un peu dit, c'est associé à toute une idée un peu fermée de l'identité nationale parfois, mais à l'origine, c'est surtout une musique d'immigrés. C'est une musique de gens qui venaient d'ailleurs et qui d'ailleurs pour leur majorité venaient d'Europe. Comme vous savez, c'est surtout des immigrés espagnols et italiens, un peu aussi français, un peu aussi d'autres nationalités, mais enfin à l'origine surtout des Italiens et des Espagnols qui ont fait l'Argentine moderne. Et donc s'il y a un point autour de quoi on peut se rencontrer, par exemple, c'est cette idée d'un lointain qui n'est jamais achevé. Et je pense que le tango en Argentine, il est né de ce croisement, de cet océan atlantique, quelque part, qui a été traversé dans un sens et qui, après, a été traversé par le tango, par les musiciens de tango, en sens inverse au début du siècle et puis surtout dans les années 20. On en reparlera peut-être dans un moment.
Alors, on va retraverser l'océan dans l'autre sens. Et on arrive en Finlande et il y a une forte identification dont on n'a pas vraiment idée en France. Sur ce tango, il y a des timbres, un timbre poste. Alors, Marit, vous connaissez les gens qui sont sur ce timbre poste, qui dansent le tango et qui fait de ce timbre un symbole? Vous les identifiez comme des danseurs de tango?
Je connais ce couple personnellement et c'est un couple qui s'est rencontré sur une piste de dancing à plein air. À 48. Et 48, c'est vraiment la période magnifique qu'on a libéré le tango de toutes les interdictions qui ont existé pendant la guerre, que nous savions, et c'est peu connu dans le monde en général, que nous savions comme le seul pays qui était dans la Deuxième Guerre mondiale, une interdiction de danser. Et ça commençait à guerre d'hiver à 39.
Excusez-moi, on reviendra peut-être sur la guerre elle-même, parce que c'est vraiment un moment important.
Non, mais je voulais seulement donner un peu de fond pour ce couple. Alors, eux, ils ont été 9 ans dans cette interdiction, puis ils ont se trouvé sur le dancing, ils ont se mariés, ils vivent toujours à Tampere, mais maintenant il peut plus danser, mais il adore le tango vraiment de tout son cœur. Et eux, ils sont vraiment mérités à être présents dans un timbre qu'on a publié il y a disons en 2000. Cet timbre est venu et il dansait encore à cette époque-là. Alors, ça c'est vraiment touchant comme histoire. Et c'est une histoire très spéciale, mais très typique pour un couple finlandais qui se rencontre sur une piste de dancing en plein air en été, dans une nuit blanche.
Alors, nuit blanche, on n'ira peut-être pas jusque-là aujourd'hui, mais j'ai bien compris dans ce que vous dites le côté central qu'il y a dans cette expérience de la guerre et dans cette identification au tango. Les choses se passent avec cette expérience de ces modalités particulières de la Deuxième Guerre mondiale en Finlande. Donc, j'ai pensé qu'on pouvait distinguer trois âges du tango finlandais, avant la guerre elle-même et ses conséquences, et puis après la guerre. Alors, avant la guerre, il semblerait que le tango en Finlande commence de façon assez proche des autres pays, c'est-à-dire comme une danse de salon, urbaine, mondaine, qu'on joue dans les grands hôtels, plutôt chic, hein, les hôtels près du port où on danse, et puis avec des orchestres qui sont des orchestres un peu indifférenciés de jazz, de danse, de salons divers, de tango, mais de tango comme danse moderne au même titre que les autres. Hein. L'orchestre, par exemple, d'Alapé, c'est bien la façon d'en parler, fait indifféremment des musiques de danse. On ne le voit peut-être pas, voilà. Ici, ça ressemble à un orchestre de jazz, ils enregistrent aussi des tangos. Mais il y a quand même ce phénomène singulier d'un chanteur. Alors là, j'ai trouvé ces images de ce chanteur étonnant qui s'appelle Malmsteen, Eugène Malmsteen, qui a été le premier roi du tango, en quelque sorte. Personnalité importante, sympathique. Hein. On voit toutes ces photos où il se représente en marin, en policier. Il a été chef d'orchestre de la police par moment.
Oui, il a fait ce qu'on dit, le premier disque en finlandais qui s'appelle Särkynyt onni, le bonheur brisé. Alors, il a composé ça et puis il y avait un régulier personnage qui a donné le mot pour ce tango. Et ça, ça doit être un valse. Une valse Särkynyt onni. Mais avant, on avait, quand toute cette histoire avec la musique populaire, avec le dancing en pair et avec l'industrie de disques, tout ça commençait dans les années 20, après la Première Guerre mondiale. Alors, lui, il est vraiment. Il était le premier. Et il était le premier dans les années 20, 30. Et à l'époque, nous avions une interdiction à boire d'alcool. Alors, ça commençait en 1919 et se finissait avec 1932. Alors, comme ça, c'était seulement permis à danser dans les restaurants de première classe. Vraiment. Et comme ça, tango est devenu une danse citadine, et puis c'était enseigné dans les écoles de dancing, et on ne le connaissait pas, pratiquement pas à la campagne. Et lui, il a dirigé Jori Malmsteen dans une manière, en composant, en chantant et en étant pour la première personnage de la musique populaire des années 20 et 30.
On l'écoute.
Ça, c'est un tango.
suo amor disinco tuo sta mille in can cai che rancato cai chi un non iota en pacco e sol mai la tata tuscata se mulle metti parre minco in rimu cui nolit callis mulle armain ia vai ca cosche e rompiti et vario om pupas mulle nit vain circa hin.
On a compris, hein, c'est triste. Mais pour ça, oui.
Si vous voulez, je me laisse dire, il y a une phrase qui dit « Je ne pourrais pas vivre sans cette douleur. »
Oui. Alors, cette personnalité, en même temps, quelque chose, moi, quand je vois ces photographies détonnantes, cet air sympathique, et j'ai trouvé un petit extrait de film, alors ce n'est pas du tango, mais je crois qu'on voit ce jour sympathique, cet acteur, chanteur, compositeur, le voilà.
Ei ole mulla markkoja taskussa, mutta siitä viis mä välitän. Kas rikkaus maan ei konsaamaan, voi näyttää meille tietä onnelaan. Ja niinhän sitä kerrotaan kaskussa, että rikkaus syöntä rasittaa. Ja kohtalo pitää kaikki laskussa. Miten paljon kukin aina saa.
Alors, il y a aussi des tangos, et là on va vers la guerre, on est dans 39, donc à la fin de, cette première, de ce premier âge du tango finlandais, avec ce tango sur le petit cœur humain qui contient bien des choses. Voilà ce que donne ce tango déjà dans le tragique.
Tunteiden paloa ja kylmyyttä sieltä, syömmestä pienestä löytyä voi kaiken mun kohdalla.
Alors j'ai trouvé plusieurs versions. Alors moi, en histoire culturelle, ça m'intéresse bien de voir comment les choses sont réemployées. On est d'accord, Esteban, pour dire qu'il n'y a pas d'authentique et de faux là-dedans. La question ne se pose pas vraiment. Mais la réappropriation est déjà l'indice d'une forte identification. Donc quand une chose classique est réinterprétée, reprise, c'est que s'est passé quelque chose dans ce phénomène de réappropriation. Alors donc, il y a des versions récentes, significatives, pas toujours aussi bonnes, mais significatives.
Niin pieni ihmissydän on, niin avara ja pohjaton, sekä ke suuret unelmat ja viha.
Et puis j'ai trouvé aussi une version par un vieux chanteur qui était aussi un grand acteur de ces films musicaux qui s'appelle Tauno Palo, qui avait des rôles de jeune premier, hein, par exemple dans ce film de guerre qui s'appelle Kurkurin Valsi, la valse du vagabond. Et là, Tauno Palo, assez vieux, hein, réenregistre ce tango du début de l'époque de la guerre.
Niin pieni ihmissydän on. Niin avara ja pohjaton, se kätkee suuret unelmat ja vihallemme maailman. Viemujen rikkaus ja surujen summa, onnekas rakkaus ja tuskakin tumma.
Alors, Tauno Palo, il a fait son premier disque en 1935 en étant jeune acteur. Et puis celle-là, Pieni Sydän, Le Petit Cœur, il a chanté en 1975, son dernier disque.
Alors, donc une touchant. Belle carrière, oui. Alors ce tango qui s'appelle Valkea Sisa, C'est vous qui m'avez dit que quand j'étais à Helsinki, à la Bibliothèque nationale, trouver ce tango qui est vraiment significatif des années 30. Pourquoi ce tango est tellement significatif?
Valkea Sisar, c'est le sœur blanc elle devient une personnage mythique parce que la guerre est tout près et pendant la guerre, il y avait beaucoup des hommes qui étaient à l'hôpital, entourés par ces infirmières, les sœurs blanches. Et puis, vraiment, c'est une histoire d'un personnage qui soigne les autres, mais qui a beaucoup des ennuis, des malheurs soi-même, mais qui les cache et qui est espèce d'une femme sainte. Et c'est tango, c'est très touchant et c'est resté tout le temps en Finlande. Si on va maintenant dans une piste de tango en été, alors on peut danser.
Luo sairainen, käy sisar hento valkoinen. Hän hymyävän katseensa suopi, lohtua tuopi aina.
Alors est-ce que c'est un phénomène de culture de masse dans cette période d'avant-guerre, de l'entre-deux-guerres en Finlande, est-ce que c'est original ou un phénomène global, européen, Stéphane ?
Ben, je pense que tu l'as dit au début, Didier, c'est surtout un phénomène européen. Et là, j'avais envie d'insister sur le fait qu'on a vu un extrait de film, même si ce n'était pas un moment tango, dans la mesure où le moment du cinéma, le moment du disque aussi, le moment de la radio, eh bien, c'est ça qui est un peu la clé pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai que les dates fondatrices de l'histoire du tango, elles viennent avant la Première Guerre mondiale. Hein. Par exemple, bon, on raconte toujours que la première partition de tango est arrivée au port de Marseille dans un jour précis en 1905. Et puis, si vous avez en mémoire le scandale, l'incident avec le Vatican, ça se passe en 1913. Si on se rappelle de ce fameux discours de Jean Richepin à l'Académie française, c'était aussi en 1913. Donc, bon, les prémices, tout ça, est bien avant la Première Guerre.
C'est une chanson de Fraxon qui s'appelle le Tétango en 1913.
Oui, il y a plein de choses avant la guerre, la Première Guerre, mais le grand essor, c'est sans conteste dans les années 20 que ça se passe. Et là, je pense qu'il y a à la fois une clé du type de différence qu'on peut rencontrer entre le tango finlandais, puisque c'est de celui-ci qu'on parle, et puis le tango argentin, dans la mesure où c'est étonnant, en Allemagne surtout, et en France aussi, et sans doute dans les pays nordiques, dans les années 20, le tango est surtout perçu comme une sorte de frère ou de variante du jazz. Et donc c'est pour ça, comme l'a rappelé Didier, souvent les instruments sont les mêmes. D'ailleurs, ça explique pourquoi la formation typique du tango argentin, ce qu'on appelle là-bas l'orchestra typica, qui est faite de bandoneon, violon avec piano et contrebasse, ce n'est pas du tout reprise dans les manifestations européennes. Et là, on va en retrouver les conséquences dans le concert qui va clore cette soirée, puisque vous allez voir, par exemple, qu'il y a un accordéon au lieu du bandoneon. Donc là, déjà, la sonorité de l'accordéon par rapport au bandoneon, ça fait une marque importante dans la sonorité. Il y a aussi cette différence dans le rythme qui s'installe. Vous avez peut-être, enfin j'espère que vous êtes d'accord avec cette impression que le tango finlandais a une carrure rythmique beaucoup plus, je ne dis pas rigide, mais en tout cas régulière, au sens où il y a moins ces roubates et ces changements de tempo, ces accélérations qui sont quand même caractéristiques, je ne dis pas de tous, hein, parce qu'il y a des variantes dans le tango argentin, mais en gros on peut dire que c'est pas exactement le même rapport au tempo de marche qui est à la base de toutes les variantes connues. Et puis, je ne sais pas, là je m'avance un peu en curieux, mais j'ai l'impression qu'il y a une différence importante sur le plan des paroles, des thématiques. Alors bon, il y a toute une discussion sur comment le tango canción, c'est-à-dire le tango chanson, est né, s'est autonomisé, disons, du moment de la danse. Et là, c'est Carlos Gardel, bien sûr, la figure majeure. Je ne sais pas, j'ai l'impression que bien sûr, il est toujours question d'un côté ou de l'autre de tristesse, de chagrin d'amour, de sorte de métaphysique de la douleur. Cela dit, En général, en Argentine, quand il y a une figure de femme dans le tango, vous savez, soit elle est méchante, soit elle est morte. En gros, ça fait... avec l'exception de la mère. La mère, quand elle apparaît dans le tango, elle est à la fois vivante et gentille, mais c'est quand même une femme pas comme les autres. Alors, cette thématique-là du désespoir sur le ton de la blessure due à la méchanceté de la femme, elle n'est pas la même que l'on retrouve le plus souvent dans le tango européen, où c'est une sorte de variante laughter, si vous voulez, des chansons d'amour. Bon, quand ça c'est fini, c'est triste, mais il n'y a pas forcément un jugement moral qui est implicite. Alors, je ne sais pas, j'ai envie de me tourner vers ma voisine, voir si elle confirme cette impression très générale.
Est-ce que les femmes des tangos finlandais sont méchantes?
Non. Par exemple, on n'a pas le mot « haine ». Comme dans le tango argentin, il y a beaucoup de passion, de douleur. Nos tangos sont plus doux, ils sont très mélancoliques, ils sont très romantiques. Ils voient le temps passé, le temps actuel. Ils voient aussi un peu de l'avenir, c'est comme une ligne au fond du tableau, quoi. C'est une ligne qui donne un peu d'espoir si tout est noir. Et nos tangos sont dans trois époques en même temps d'un individu. Et ils sont très, très, on peut dire, touchants, et ils sont très consolants aussi.
Alors, on va passer à la période de... Excusez-moi, là, quand ça commence, on n'arrive pas. Mais c'est le pays blanc, c'est vraiment le tango qui marque l'entrée dans la période de guerre, parce que c'est en même temps une description du pays, de l'attachement qu'on peut éprouver pour le pays. Donc c'est un tango qui est apparu comme le tango significatif du passage à la culture de guerre. Alors, je ne suis pas sûr qu'en France on ait conscience des différents épisodes de la Seconde Guerre mondiale qui ont impliqué la Finlande. Ça a commencé par la guerre d'hiver, de l'hiver 1939-1940, une guerre entre l'Union soviétique et la Finlande. Alors, il y avait eu des tractations. Il faut penser que la frontière est différente. Hein. Ici, le lac de Ladoga montre la frontière qu'il y avait à quelques kilomètres de Leningrad. C'est la frontière que Staline voulait repousser. Et à partir d'un incident frontalier, il a attaqué la Finlande dans cette guerre d'hiver qui dure donc jusqu'en 1940. À la suite de cette guerre... Qui a impliqué une mobilisation de la population, un traité très désavantageux est signé, qui repousse les frontières en annexant une grande partie de la région de Carélie. Et donc, quand en 1941, l'Allemagne attaque l'Union soviétique en juin 1941, commence une autre guerre, la guerre de continuation, qui est le deuxième épisode de la guerre, dans lequel la Finlande attaque l'Union soviétique, mais ne dit pas vouloir prendre plus que ce qui avait été perdu dans la guerre d'hiver. Et le troisième épisode de la guerre, c'est quand le gouvernement finlandais décide d'avoir une paix séparée avec l'Union soviétique, ce qui provoque des mesures de rétorsion des nazis qui dévastent le nord du pays, la région de Rovaniemi particulièrement. Donc il y a trois épisodes dans la guerre, et ces trois épisodes sont liés à, en même temps, le tango qui devient en quelque sorte le symbole des épisodes de cette guerre, d'autant plus qu'un certain nombre de musiciens sont affectés, en quelque sorte, dans la mobilisation patriotique dans les trois épisodes de la guerre, et on a pas mal de photographies qui semblent assez édifiantes de ces musiciens vivant au front, faisant des spectacles au front. Et c'est souvent apparemment les musiciens qui sont les créateurs du tango. Alors il y en a quelques-uns ici que vous connaissez bien, que vous reconnaissez bien. Vous pourrez peut-être les dire de qui il s'agit. Donc ici c'est Toivo Kerki, le compositeur Toivo Kerki qui est là et qui a écrit au front sans instrument, qui a composé, je crois, sans instrument, quelques-uns de ses tangos. Olavi Virta, qui devient un des grands interprètes. Donc on est en 1942, vous en avez d'autres ici. C'est un aspect de la culture de guerre que le tango. Et donc, pour nous, historiens qui travaillons pas mal sur la culture de guerre, Première et Deuxième Guerre mondiale, c'est intéressant de voir qu'un genre musical s'identifie complètement à un épisode historique. Alors, dans ces tangos de l'époque de la guerre, il y a des concerts qui sont organisés par Olavi Virta, qui sont en même temps retransmis à la radio, je crois.
Nous avions les radios des fronts et les radios, c'est que nous avons les grandes radios. Et puis, merci. Et là, ils ont joué ce qu'ils voulaient, les soldats. Alors, ils voulaient seulement la musique populaire, le tango. Et avec le tango, ils envoyaient ses meilleurs vœux pour les gens, les bien-aimés dans la maison, dans le foyer. Et on avait vraiment les grands concerts dans les radios. Puis aussi, on avait les grands concerts, d'émissions directes dans la radio, et qui ont vendu les tickets, puis qu'il était envoyé directement. Et là, c'était là aussi c'était vraiment radical pour le programme de la radio, parce qu'il y avait le moment que quelqu'un qui n'a pas vu son mari, fiancé, son petit ami pour par exemple pour un an. Alors là, quand il était tout le temps, il changeait les lettres tout le temps, qui sont passées par la censure, comme tous les courriers du poste, des postes qui venaient du front. Alors là, il pouvait être le même personnage où il pouvait communiquer avec le tango. Et le tango était on exprimait avec le tango tout, les désirs de l'amour, les douleurs, de tous les aspects qu'on voulait dire à l'autre personnage, mais on ne pouvait pas tout le temps donner les mots pour ça. Et aussi, il y avait une grande transformation des mots de tango pendant la guerre, parce que, par exemple, Toivo Karki était sur le front, alors il a composé ces tangos, il les a envoyés par cette poste militaire à...
C'était Kerttu Mustonen.
Kerttu Mustonen, c'est une femme qui avait déjà travaillé avec lui une dizaine de années, et qui écrivait les textes magnifiques dans le temps, comme Lilian Kukka et Siksi olen surullinen, c'est parce que je suis triste. Et tous les hiljas, bien doucement.
On va les écouter parce que c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Mais j'aurais envie de demander à Esteban, en Argentine aussi, il y a eu la Première Guerre mondiale. C'est présent dans les tangos ?
Alors, il y a plusieurs tangos qui parlent de la Première Guerre mondiale. Le plus célèbre, c'est Silencio de Gardel, celui qui fait Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, l'ambition trabaja. C'est un tango qui parle en fait d'une femme qui a perdu 5 de ses enfants à la guerre. La seule chose un peu bizarre, c'est que ça ne parle pas de mort argentin, mais de mort français, parce que Gardel l'a composé à Paris à l'époque, en 29, si ma mémoire est bonne. Donc c'est une sorte de commémoration rétrospective francophile, comme souvent pour l'Argentine et pour les tangueros en particulier. Vous savez que Paris et Buenos Aires sont une sorte de couple à part entière pour ce qui est du tango jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard, peut-être, si on se retrouve ici à parler de ça. Mais enfin, ça, c'est un autre chapitre. En tout cas, pour la guerre, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, où la réponse est oui et non. Elle est oui parce qu'il y a, par exemple, ces quelques tangos, mais ça ne fait pas vraiment, ça n'a rien de comparable, je crois, à ce qui est en train d'être décrit sur la Finlande. Pour une raison simple, c'est que, bon, pour parler de la Seconde Guerre mondiale, l'Argentine a déclaré la guerre à l'Allemagne en mars 1945, ce qui n'est pas ce qu'on a fait de plus glorieux, vous comprenez pourquoi. Bon, bref, il n'y a pas vraiment de culture de guerre là-bas. Et si on regarde l'histoire du XXe siècle en Argentine, la seule vraie guerre, c'est la guerre des Malouines en 1982. Et là, ça peut être intéressant de signaler que justement, il n'y a pas eu de tango pour une raison forte. C'est que la génération qui s'est retrouvée à faire cette guerre-là, la génération qui d'ailleurs se trouve être la mienne, j'ai 45 ans, c'est une génération pour laquelle la musique de référence, c'était plutôt le rock. Que le tango. Donc là, il y a des questions de décalage historique qui sont, qui font partie de l'histoire qu'on est en train d'esquisser, alors même que, si j'ai bien compris, en Finlande, on a encore cette adhésion, je ne sais pas si de la jeunesse, mais en tout cas d'une partie importante de la population. Ce n'est pas du tout pour dire que le tango en 1982 n'existait plus en Argentine, mais que ça soit clair, hein, la culture du tango s'est maintenue, mais du point de vue de comment ça fonctionne justement pour l'identification, pour la projection des sentiments, il y a eu une période qui a duré peut-être des années 60 jusqu'aux années 80-90 où la nouvelle génération a eu du mal à s'identifier à ça, un phénomène qui est en train de changer puisque maintenant, comme vous savez probablement, il y a un nouveau boom du tango en Argentine où ce sont les jeunes qui s'y collent de manière très très enthousiaste.
Alors on va revenir à ces tangos de guerre, hein, avec quelques exemples. Alors, ce qui me semble étonnant, c'est que ça n'est jamais complètement oublié. Il y a des versions plus récentes qui montrent qu'on le rechante. Et puis, il y a ce tango de guerre de Toivo Kärki qui s'appelle Six on Mesuruinen, sur lequel on va peut-être s'attarder parce que Toivo Kärki, on en reparlera, c'est vraiment un des grands compositeurs de ce tango finlandais. Avec donc des paroles de Kerttu Mustonen. Voilà l'introduction instrumentale qui montre à quel niveau on se place. C'est grave instrumental. Puis, bon, le premier
couplet. Alla onnen riemu portin kaulan kanssa solla koetin armahin mun ystäväin.
Et puis le refrain. Bon, alors c'est ce qui me semble important dans ces réappropriations, c'est que je trouve, en faisant mes recherches sur Internet, plein de versions, les meilleures comme les pires. Et moi, je ne suis pas musicologue, donc les pires m'intéressent. comme historien. Bon, donc, j'ai droit au meilleur dans les réarrangements qui montrent bien la proximité avec la musique argentine et puis à des adaptations beaucoup plus lointaines de cet intérêt musical. Voilà la fin par le créateur, Olavi Virta. Là, on est vraiment dans le mieux. Hein. Peut-être qu'il faut techniquement se poser la question, est-ce qu'on reconnaît un vrai tango à la fin, à la façon dont ça se termine? Est-ce que là, il y a un signe esthétique important? On va écouter la fin pour voir si ça fonctionne. Ça va, c'est du vrai?
Oui, oui, tout à fait.
Il faut que le dernier accord soit plus léger, que la résolution harmonique soit pas complète
ou... Ah, pas forcément. Il faut qu'on se pose la question de quel est le rapport entre l'avant-dernier et le dernier. Parce que si vous écoutez, il y a toujours... la version la plus courante, c'est tchan-tchan, donc ça finit sur un temps fort.
Oui.
Mais après, justement, on s'est lassé de la répétition de cette formule et on a essayé de trouver des manières de faire mentir l'attente. C'est quelque chose qui est intéressant de ce point de vue. Et donc, il y a effectivement pas mal de tangos qui finissent sur un temps
donc
léger.
Donc, on reste dans une indécision.
Un accent léger qui vient... décevoir l'attente du fort. Et ainsi de suite, si vous faites attention au tango, la fin est souvent un moment crucial de point de vue de ce petit jeu de l'attente et la déception qui vient. Et ça se décline de différentes manières. Parfois, ça peut être tout simplement l'absence de la dernière note, du dernier accord, et on reste là en suspens, ainsi de suite. Donc, ça, c'est...
Voilà, donc on va tous être attentifs à la fin de chaque tango pour pouvoir...
Absolument.
Juger de ça. Alors, on passe à ce... Oui, pardon.
Je peux dire quelque chose sur ce tango Siksoma Suruinen, parce que je suis triste. Alors, vous l'avez peut-être entendu dans plusieurs films de Aki Kaurismäki. Et il y a quelques semaines, il est devenu académicien en Finlande. Et là, on a joué ce tango. Et ça date de l'année 1944, joué par Olavi Virta et composé par Toivo Kärki. Aki Kaurismäki a dit que c'est le plus beau tango du monde.
Contredisant Vincent Scotto qui
oui,
disait que le plus beau tango
oui,
du monde, c'est celui.
Je dis aussi ça que ce qui est remarquable est que dans ces tangos, ils sont très mélancoliques et très, très belles. Ils sont aucun, il n'y a pas mentionné qu'on vit la période de la guerre. Alors, et c'est pour ça qu'ils sont très, très populaires. Parce qu'ils seulement, ils touchaient pour les gens les plus fondés, très, maintenant, je ne trouve pas le mot. Non, mais ils touchaient les gens. Et en disant et en parlant sur l'amour, sur la nostalgie et sur une espèce de maladie de l'amour. Et ils étaient très, très beaux, très belles. En plus, il y avait plusieurs métaphores, toutes sortes de... d'un autre langage qu'il y avait dans les années 30. Et ça, il faut que je compare à Kieslowski, qui était un metteur en scène polonais qui a dit dans une conférence de presse qu'il doit beaucoup au socialisme parce que le socialisme lui a appris à dire les choses très symboliquement, que seulement l'audience les comprend, mais pas les autorités qui les censurent. Alors, il faut lire, c'est la même chose avec les tangos finlandais pendant la guerre, que les autorités ne pouvaient pas comprendre les mots, mais l'audience, ils les adoraient et ils ont été maintenant populaires. 65 ans. Alors, ils sont toujours.
Tout à l'heure, j'ai parlé en plaisantant de Scotto, mais entre Scotto et Kerki, dont on va un petit peu parler maintenant, il y a un point commun. Ce sont des gens qui ont composé énormément. Toivo Kerki, chaque fois que je regarde sur Internet, je découvre de nouvelles choses, des musiques de films, beaucoup de musiques de films, des valses, des béguines, des tangos, des centaines de titres. Hein. Donc ce phénomène Kerki, on va essayer d'en écouter un exemple. Normalement, ça tournait ici.
C'est encore de la guerre.
Mikä mielesi muuttanut on? Sano toinenko tullutkaan tielles, joka päivä ja ilta mä toivon.
Oui.
Jäädä
sinun sydämees.
Avant-guerre, il ne s'intéressait pas particulièrement au tango, il pensait faire du jazz et il avait même ses bagages prêts pour l'Amérique, je crois, en 1939.
Il jouait dans l'orchestre qui s'appelait Ramblers. Il a vaincu une compétition internationale avec les pièces qui s'appellent Things Happen That Way. C'était 39. Il a rêvé à aller aux États-Unis pour travailler là-bas comme musicien. Mais c'était trop tard parce que 39, il avait aussi la guerre d'hiver qui a commencé.
C'est un fils de pasteur donc qui a appris la musique comme ça, peut-être sur l'harmonium ou...
C'est un fils de pasteur et puis pour le pasteur, pour le père, c'était un grand choc quand son fils il a choisi le restaurant et l'orchestre de restaurant quand il a fait son baccalauréat.
Et puis il y a l'expérience de la guerre, hein, donc il a vécu au front, faisant des tournées au front en vivant. Et puis après-guerre, il commence une carrière formidable en 1945. Alors là, il est avec le chanteur Henry Till, qui était son chanteur. J'ai entendu en Finlande qu'on avait comparé à Tino Rossi par moment. Henry Till, c'est possible, je ne sais pas si c'est l'équivalent. Là, donc, Kerki est au vibraphone ici. Et puis, il est suffisamment repéré pour que quand Louis Armstrong vient à Helsinki, je crois que c'est en 1949,
oui.
Il rencontre Toivo Kerki. Qui apparaît vraiment comme le grand musicien. Alors, Kerki...
Il était à l'aéroport pour jouer pour quand il vient, Satchmo, en Finlande.
Donc, Kerki, grand compositeur. Alors, il y a un autre parolier qui s'appelle Elisma, avec lequel il a beaucoup travaillé. Et puis, par moments, il compose tellement qu'il prend des pseudonymes. Hein, quand on voit ce type de partition, Pedro de Punta, c'est Toivo Kerki. Il y a beaucoup de partitions. Alors pourquoi est-ce que vous m'aviez expliqué que vous lui avez demandé pourquoi il avait pris ses pseudonymes de Pedro de Punta pour les tangos? Vous voyez la quantité.
Il était Antonio Brave pour les pièces style italien. Il était Cari Ava pour les tangos, pour les jenka, pour tout ça en style finlandais. Et puis il avait une dizaine de pseudonyme. Et quand je lui demandais pourquoi, alors il m'a dit que c'était vraiment gênant que quand on a joué ces disques après la guerre dans la radio, que chacun aurait été composé par Toivo Kerki. Alors ça, c'est pour ça qu'il voulait...
Donc il composait trop.
Il était W. Stone quand il composait quelque chose qui testait le style du jazz, etc. Alors, vraiment, il avait des pseudonymes, il était plein.
Alors, parmi ces grands succès, il y en a un qui me semble particulièrement émouvant. Alors, on connaît tous en France Le soleil a rendez-vous avec la lune étrennée. Alors là, apparemment, dans un tango finlandais, la lune n'a même pas rendez-vous avec le soleil. Hein, c'est encore plus loin dans la solitude et ça donne cette pleine lune qu'on va voir lors de sa création dans un film avec une musique de Toivo Kerki et avec le grand chanteur Olavi Virta. Mmh.
sinun vaatiasi ovat.
Mutta Agnes...
Täysi kuu, sä ihme suurin olet öisen taivahan. Täysi kuu, kun avaruuden puet loiston hopean. Saat nähdä vain sä rakkauden, sen hetket riemukkaa. Mut kiertäkö mä tietäsi, niin yksin sinä saat. Täysi kuu, kun hänet löydät, jota kaipaan minä niin. Täysi kuu, sä hänet loisteellasi peitä suudelmiin. Ja kerro hälle, kuinka paljon häntä rakastan. Täysi kuu, se kerro hälle, täysi kuu.
Alors, la lune est peut-être trop seule, mais visiblement les amoureux trop en contact d'un public qui les empêche. Alors voilà, la double introduction, je la remets au début s'il vous plaît, la double introduction de cette pleine lune. Sorti, on fera un club des fans de Toivo Kerki, parce que vraiment c'est un musicien qui doit être plus connu en France. Alors je vais être obligé d'accélérer un petit peu et je passe à la troisième période de l'après-guerre, hein, puisque après cette troisième phase, la destruction de la Laponie par l'armée allemande en déroute, la Finlande doit signer une paix qui n'est pas très avantageuse puisqu'elle perd la Carélie. Et en même temps, elle connaît, ce qu'on sait peu, hein, en même temps qu'elle se reconstitue, une situation d'occupation, de fait, hein, dont vous avez parlé. Alors les alliés, les troupes alliées étaient dans cet hôtel qui domine la ville de Helsinki, qui s'appelle l'hôtel Torni. Et dans cet hôtel Torni, parmi les mesures qui étaient durement ressenties par la population, il y avait... l'interdiction des balles jusqu'à une période vraiment tardive, 48.
Entre 44 et 48, on pouvait danser, si on avait deux heures de la programme, on pouvait danser une et demi-heure après. Et cette quantité, on disait que ça s'appelle iltamat. Et après 48, c'était libre.
Donc 48, le fait que le tango réapparaisse en 48 dans cette période de reconstruction, de relative abondance après les périodes de pénurie, fait que un lieu symbolise cette troisième phase du tango en quelque sorte. Ce sont les planchers de danse, tansilava, en plein air. Voilà la forme la plus simple, hein, vraiment un plancher, des barrières. Puis peu à peu,
ça c'est seulement pour l'orchestre, celle-là.
Oui. Voilà, ça c'est pour les danseurs, ça s'élabore un petit peu. On met un toit, on finit par mettre un toit autour d'une colonne centrale. Et puis là, on y va, on danse, de préférence donc en été, très longtemps, quand on ne sait plus si on est dans le jour ou la nuit, ça donne ceci.
Sä kuulut päivän jokaisen, sä kuulut aamuun ja iltaan. Oot ensimmäinen aatoksissain, miete myös viimeinen. Sä kuulut nousun auringon ja liityt kuutamon siltaan. Oot on aamukaste, iltarusko, laulu yölintusen. Nään lentävän taivaalla tähden, ja sua mä ajattelen. Pois toisien luota, jos lähden, sun luotasi lähtisi en. Sä kuulut päivän jokaiseen, sä kuulut aamuun ja iltaan. Oot ensimmäinen aatoksissain, mieten myös viimeinen.
Alors là, historiquement, on est dans le point central de ce débat terrible dans lequel le tango est un genre plutôt rural en Finlande et plutôt urbain en Argentine.
Ah oui, carrément urbain, bien sûr. Le tango, en dehors de la ville de Buenos Aires, je dis pas qu'il n'existe pas, mais c'est la musique de Buenos Aires par définition, et cet imaginaire urbain est vraiment le point de départ et d'arrivée, je crois.
Alors, un des phénomènes étonnants, c'est que ça redémarre en 1948 avec l'autorisation des bals, et ça continue. Il y a ces phénomènes de renaissance. On trouve un festival à Seinäjoki. Vous avez un site internet qui montre bien que chaque année, il y a des élections. Et puis, il y a ces titres significatifs. Mais là, je vais être obligé d'aller vers le phénomène de redécouverte dans les années 60. Vous voyez ce à quoi vous avez échappé, mais pas pour longtemps, puisqu'après, il y aura le concert. Vous aurez certains des titres que je pensais mettre ici. Ce phénomène de renouveau qui se fait autour de ces hit-parades, hein, Iskelme, c'est l'équivalent du schlager, hein, du hit-parade. Et le tango a sa place jusque dans les années 60, où on aurait redécouvert, vous voyez, tous ces petits formats, hein, qui sont au tournant des années 50 et 60 et qui sont des tangos. C'est roi du tango avec Olavi Virta. Je passe là-dessus. Et puis, il y a ce phénomène étonnant dans les années 60 de renaissance autour d'un tango qui devient un peu un symbole, qui avait déjà eu du succès dans les années 50, qui s'appelle Satuma, ce qui veut dire pays de contes de fées, pays de légendes. Et ce tango, qui a été relancé dans les années 60, suffisamment là pour servir de devanture à un café, hein, ce pays de contes de fées, et n'est pas de Toivo Kärki, hein, mais il est d'un compositeur qui a une carrière beaucoup plus brève, et qui s'appelle Unto Mononen. Alors Unto Mononen, moi, chaque fois que je vois les photographies, je trouve ça déchirant, il a l'air tellement triste, hein, sur les photographies, tout le temps. Et ce tango, pays de contes de fées, Satuma, reste quelque chose de symbolique et est souvent repris. Et là, la réappropriation comme signe d'identification marche bien. Voilà la version relancée dans les années 60 par Reijo Taipale.
Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa, missä onnen kaukoranta paineli plattaa, missä kukat kauneimmat luo aina loistettaan. Siellä huolet huomisen voi jäädä unholaan. Oi, jospa kerran sinne Satumaahan käydä vois, niin sieltä koskaan lähtisi en linnun lailla pois. Vaan siivetönnä en voi lentää, vanki olen maan. Vain aatoksimmi kaulas, entä sinne käydä saan. Thank you.
Ce qui me semble le signe de cette forte identification, ce sont toutes les versions qui sont dérivées de cette version relancée. Ça va de Frank Zappa, hein, qui a joué ce morceau, à des versions d'une qualité diverse qu'on trouve sur Internet, chantées par des enfants. Chantées par des chanteuses amateurs. Tirant vers les interprétations argentines. Dans tous les cas, je trouve que cette volonté de chanter même mal montre à quel point cette appropriation fait que ce tango finlandais, avec toute cette particularité de cette histoire que Madame Nini Luoto nous a expliquée, rejoint bien ces exigences universelles à laquelle nous sommes tous attachés. Merci de votre attention.
Si monsieur permet me dire une phrase.
Je vous écouterai des heures, vous savez bien.
Monsieur Toivakar, qui a dit que plus que le tango est triste, plus le Finlandais paraît plus heureux. Et le tango est vraiment une tradition en Finlande. Ça ne change plus. Merci.
Soyons tristes ensemble, nous avons ce bonheur.